Au réseau Cogeco, vous écoutez une émission spéciale sur les 30 ans de la tragédie à la Polytechnique.
En tant que fille, on est fiers là, d'être ingénieurs, puis que, pas de les représenter, mais comme une legacy, qu'on pourrait dire. Quand on entend ça en tant que femme, on trouve ça frustrant, les raisons pourquoi ça s'est passé aussi. Puis on peut dire comme in your face, on est toutes quasiment des filles. Mais pas toutes, mais tu regardes des génies comme industriels qui ont plus de filles que d'hommes.
Voici Bernard Drainville.
Alors ça, c'est une étudiante d'aujourd'hui qui dit « Tiens-toi ».
Non, hein? On a eu notre vengeance, c'est maintenant nous autres qui sommes majoritaires ici.
Ouais, en génie industriel, disait-elle, hein, ouais. C'est ça? Alors, c'est un vox populi, comme on dit, dans le métier, qui a été recueilli par le journaliste, notre journaliste Philippe Bonneville. Là, Luc, on va accueillir celui qui était le président de l'association étudiante de Polytechnique en 1989, Alain Perrault, bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Il faut que la vie reprenne après un événement, une tragédie comme celle-là. Ça se passe au mois de décembre. Donc, on s'en va vers le congé des fêtes, mais vous, là, vous devez organiser vous devez organiser l'accueil, le retour aux études de ces étudiants-là, qui sont étudiantes, qui sont marquées, évidemment, là. Comment ça s'est passé, ça?
Bien, en fait, il y a un comité de crise, si on veut, qui s'est mis en place, un comité de direction où les étudiants étaient représentés. J'étais là-dessus. Il y avait les étudiants des cycles supérieurs également qui étaient là. Il y avait le corps professoral, il y avait la direction de l'école, et on devait décider comment répondre à la crise, comment répondre à cet événement-là. Il y avait beaucoup de demandes médias, il y avait toute la question des préparations des funérailles qui était importante également. Donc tout ça, ça faisait partie des décisions qu'on devait prendre collectivement, la direction en grande, grande partie, évidemment. Mmh. Mais il y avait des questions de sécurité aussi qui se posaient. Tu sais, par exemple, on se faisait poser la question, est-ce que l'école devrait être fermée maintenant au grand public? Est-ce qu'on devrait avoir des détecteurs de métal? Donc, il y avait des discussions comme ça qui se posaient également.
Est-ce que vous craignez, on craint à ce moment-là que ça se reproduise? C'est une réaction normale, non?
Ben, on se faisait poser la question aussi, est-ce qu'il y avait suffisamment de sécurité? Est-ce qu'on aurait pu prévenir? Cette question-là, dans le fond, nous a amené rapidement à dire, oui, il y a des choses à faire. Mais initialement, on s'est dit, qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Pour prévenir, il y avait le rôle des hommes, etc. Donc, on se questionnait beaucoup sur comment avoir pu empêcher le massacre d'arriver.
Et aviez-vous des réponses à ces questionnements-là?
Bon, au mieux de notre possibilité, au mieux de nos capacités, on essayait d'y répondre. Puis, en fait, c'était le sentiment de solidarité, surtout, qui était fort, qui était très, très fort. Pas juste à l'intérieur de Polytechnique. Oui, Polytechnique, c'est une institution très familiale, très...
Tricoté serré.
Donc, on a serré les coudes, on a serré les rangs, puis on travaillait dans le même sens, hommes-femmes, étudiants, direction, professeurs. C'était vraiment assez beau à voir, d'ailleurs, ce qu'il a voulu faire a été complètement nié par le sentiment de solidarité qui a été issu
de la tuerie.
Mais je suis très heureux de l'entendre parce que très souvent, les crises, là, il y a de l'émotivité dans ça. Puis je veux dire, les gens ne sont pas nécessairement dans leur plus rationnel quand ils s'assoient pour discuter des solutions. On dirait que vous l'avez surmonté rapidement.
Bien, on essaie effectivement de ramener un certain calme à ça, mais en même temps d'essayer d'encourager des actions. Parce qu'on doit utiliser, puis j'en suis encore convaincu, là, on doit utiliser des moments forts comme ça pour essayer de trouver un côté positif et un côté mobilisant à un événement comme celui-là. Puis je pense que on voit ce que Heidi, Nathalie a fait en particulier. On voit les témoignages des femmes qui sont présentes à Polytechnique. C'est un échec complet, dans le fond, hein, ce que Marc Lépine a essayé de faire.
Et comment?
Heureusement, d'ailleurs, et on voit la mobilisation autour maintenant des thèmes reliés à la place des femmes dans la société, le harcèlement, etc., qui a une ampleur jamais vue, donc, de ce côté-là.
Est-ce que le grand défi que vous aviez, parce que j'imagine, tu es un étudiant ou une étudiante de poly, c'est arrivé, je suis certain qu'ils devaient en avoir, qui se demandaient, j'ai-tu le goût de revenir en janvier ici, moi-là? Tu sais, il devait avoir une insécurité, une certaine insécurité chez certaines personnes, non? Chez certains étudiants, non?
C'est sûr qu'il y avait un inconfort parce que c'est des lieux d'un drame, hein? Donc, il y a un choc traumatique à ça, c'est certain. Puis, je pense pas qu'on peut, l'ignorer, ce choc-là. Il existe encore, tu sais. Quand j'y retourne, j'ai toujours une émotion. Je n'ai pas peur d'y aller, mais j'ai l'émotion, j'ai des souvenirs de ça, puis je ne suis pas le seul, je suis certain. Mais dans le contexte, on a quand même une mission à accomplir. T'sais. On était dans une institution d'enseignement, puis on devait démontrer d'ailleurs qu'il n'allait pas réussir à nous mettre des bâtons dans les roues.
C'est ça, vous disiez ça? C'est pas lui qui va gagner?
Exactement, exactement. Donc pour nous, c'était important de... C'est sûr, avec tout ce qu'il faut au niveau du deuil, puis du recueillement, puis même des sollicitations médias et autres qu'on avait, on devait y répondre à ça. Mais dans le contexte, rapidement, au retour de janvier, c'était retour aux affaires relativement normales, évidemment, avec des nouvelles données, des nouvelles questions à se poser, des nouvelles actions à prendre. Mais il y avait quand même la nécessité de vivre notre vie comme elle devait être. Puis on rappelait aux médias, d'ailleurs, les limites à ne pas franchir souvent.
Par exemple?
De ne pas trop insister, par exemple, sur... après un certain temps, on a donné beaucoup de temps à donner les émotions, à laisser la place, justement, à l'extérieur, à l'intérieur de l'école. Mais il fallait que le débat déborde le cadre de l'école également et qu'il prenne place dans la société. C'était pas juste une question. D'ailleurs, il avait choisi Polytechnique, mais il aurait pu choisir un autre endroit. Donc, le thème n'était pas nécessairement relié seulement à l'ingénierie, seulement à Polytechnique, seulement à la place des femmes à Polytechnique. On voulait vraiment amener le débat à un autre niveau, puis... on voit qu'avec les années, effectivement, on a atteint un autre niveau.
Ça a bien réussi, ouais. Ça. On le voit aujourd'hui. Là. Il y a une sorte de consensus qui s'est développé parce que la réalité, puis tout le monde que j'ai entendu à ton émission, Bernard le disait aujourd'hui, c'est que sur le coup, on n'a pas pensé à un crime contre les femmes, on a pensé à une tête brûlée, un crackpot qui a assassiné des gens. Puis c'est tranquillement que ça a commencé à percoler. Je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Il a séparé les femmes des hommes. Il n'y a pas plus vache, il n'y a pas plus couard qu'un geste comme celui-là. Alors, vous me dites qu'on a repris le dessus. Il y a dû quand même avoir des chocs post-traumatiques. Il y a des gens qui ont dû rester...
Ben oui, c'est sûr, on veut se protéger hein, personnellement contre ce choc-là. Puis d'ailleurs, moi-même, je n'ai pas voulu voir le massacre. J'ai été prudent pour ne pas avoir des images trop choquantes. Donc, j'ai évité d'être en contact avec ça parce que j'avais peur, justement, de l'impact psychologique que ça pouvait avoir. Certains n'ont pas eu le choix et ont été témoins de ça. Donc, il y a cet aspect-là. Mais il y a l'aspect aussi de dire, des fois, on voulait peut-être réduire le sujet à dire c'est juste un acte isolé. Mais en réalité, il y avait quand même un thème de plus grande envergure à aborder.
Bien sûr, bien sûr. Parlez-nous des séquelles que ça a laissées. Chez certaines de vos consoeurs ou certains de vos confrères?
C'est très personnel, dans le fond, ça. C'est très individuel. C'est pas quelque chose qui se partage ou c'est une information qui est difficile à obtenir, dans le fond, des gens, parce qu'ils le gardent pour eux, souvent. On a été comme informés de certaines situations de détresse. Des gens, il y a eu des cas, mais je pourrais pas les nommer spécifiquement, mais je me rappelle qu'il y a eu des cas... De détresse évidente.
Est-ce qu'on les a aidés? Il y avait
beaucoup d'aide disponible à Polytechnique dans ce temps-là. Il faut quand même reconnaître soi-même qu'on a besoin d'aide, par exemple, pour aller chercher cette aide-là. C'est
exactement
évident.
Comme le choc post-traumatique combattants militaires.
Oui, absolument.
Sur le coup, ça a l'air de bien aller. Là. C'est tout à coup, ça frappe.
Puis des fois, ça reste toute ta vie aussi. Il y a comme une latente qui est là, qui dure longtemps. Mais globalement, je pense que les gens, à cause justement de l'effet de solidarité, ou de la mobilisation également autour de ça, du fait que c'est vrai, les femmes étaient visées, mais justement, ça nous a rapprochés dans un sens. Ça a peut-être quand même aidé. L'ampleur du phénomène a fait en sorte qu'on sentait l'appui, pas juste à l'intérieur des murs de Polytechnique, mais de la société en général.
Est-ce que ça vous a changé, vous, Alain Perrault?
Je dirais assurément, parce que en fait, après, j'ai pas suivi un parcours typique d'ingénieur. J'ai plus décidé d'aller dans les sciences sociales. Puis, pour moi, la place des femmes aussi dans le contexte du travail, c'est quelque chose qui est absolument pas négociable. C'est pas quelque chose... Je me questionne pas. Puis, je suis très, très sensible, très, très favorable à tout ce qui se passe actuellement pour remettre en place un respect puis un fonctionnement harmonieux de nos relations hommes-femmes dans un contexte professionnel ou social.
Nathalie Provost, avec qui je faisais une entrevue hier, m'a dit, je fais Alain Perrault, demain il va être en studio. Puis elle m'a dit, oh Alain Perrault. Elle dit, il a été tellement important, Alain Perrault. Pourquoi elle m'a dit ça?
Ben, j'avais peut-être un rôle à jouer, puis je l'ai bien joué, je pense. C'est ce qu'on m'a dit. Là. J'ai pas tendance à...
Vous avez l'air d'être quelqu'un de calme. Ça doit être inné chez vous. Vous deviez l'être à ce moment-là.
Oui, je l'étais à ce moment-là. Puis on le sait pas, hein. Puis je me suis présenté à la présidence étudiante. Je savais pas d'avance que ça allait arriver, mais j'ai laissé de côté mes études pendant un bout de temps pour m'occuper de ça. Puis ce que j'ai aimé, c'est de pouvoir appuyer des initiatives qui émergeaient, comme celle justement de Heidi sur le contrôle des armes. J'ai été en place pour pouvoir donner un petit coup de pouce, je pense, favorable à ça.
En tout cas, je vous félicite. J'ai été président, moi, de mon université. Je peux un petit peu imaginer ce que vous avez dû gérer. Évidemment, vous l'avez dit avec la direction, bon, mais je me fie sur Nathalie Provost. Je pense qu'elle était vraiment très, très, très convaincante. Et dans ses yeux, c'était Perrault. Il a été très important pour ramener une espèce de sérénité puis de quiétude. Puis il a joué un rôle important pour, d'une certaine façon, comment je dirais ça, redonner une espèce de normalité à notre institution, à l'interne. Je pense que vous avez été une figure importante là-dedans. Alors, pas tout seul, je sais. Vous n'étiez pas tout seul.
Une fraction de ce que Nathalie a pu être, mais bon, tant mieux si j'ai pu contribuer.
Je rappelle que vous étiez Alain Perrault, le président de l'Association étudiante de Poly. Merci de vous être déplacé.
Merci.
On va aller rejoindre Luc, on va aller rejoindre Philippe Bonneville, notre reporter Cogeco Nouvelles, parce que Philippe va être à la commémoration donc de ce 30e anniversaire un peu plus tard aujourd'hui. Bonjour Philippe.
Bonjour à vous deux, je suis déjà sur place d'ailleurs au chalet du Mont-Royal présentement.
Très bien, très bien. Raconte-nous ce qui va se produire là.
Ce sera une cérémonie d'une vingtaine de minutes qui va se dérouler en présence des premiers ministres Justin Trudeau, François Legault, la mairesse Valérie Plante également sera là, mais surtout, ça se fera en présence de très nombreux proches de ces 14 victimes. Pour vous décrire un peu l'endroit, là, on vous parle du belvédère qui est face au chalet du Mont-Royal, vue spectaculaire évidemment sur le centre-ville, et on attend ici entre 1500 et 2000 personnes.
Oh là là, c'est énorme ça pour cet endroit, parce que je connais l'endroit.
Exactement, on s'attend à ce que ce soit la commémoration la plus importante des dernières années, liée évidemment aux tragiques événements de Polytechnique. Ça va commencer précisément à 17h10. Pourquoi 17h10? Parce que c'est à cette heure-là, précisément il y a 30 ans, que les premiers coups de feu ont été tirés. Et la cérémonie va durer un total de 20 minutes. Pourquoi 20 minutes? Encore là, c'est parce que la tuerie, le massacre s'est déroulé sur une période de 20 minutes à l'école polytechnique en 1989. Donc, il y a une certaine symbolique dans tout ça. Et comme c'est le cas depuis quelques années, rappelez-vous, il y a toujours ces faisceaux lumineux qui illuminent le ciel de Montréal lors des commémorations. Eh bien, on répète l'expérience aujourd'hui. On va nommer donc les noms des 14 victimes et après chaque nom, on va allumer un de ces faisceaux, 14 au total, et ces faisceaux lumineux-là, on pourra les apercevoir de très, très loin dans le ciel du Grand Montréal jusqu'en fin de soirée parce que ils ont une hauteur de 2 km, nous dit-on. Donc, c'est vraiment très, très haut et c'est très impressionnant. Aussi, vous dire qu'il y a deux chansons qui seront interprétées par une chorale de 150 personnes qui est en place présentement devant moi. Il y a une répétition générale qui va avoir lieu au cours des prochaines minutes. Parmi les chansons, il y aura Alléluia de Leonard Cohen. Donc, imaginez l'émotion que tout ça va susciter. Ça, c'est certain, certain.
Très bien, Philippe Bonneville. Tu es sur place et je tiens à souligner que, évidemment, tu vas prendre, tu vas intervenir, en fait, dans l'émission de Patrick Lagacé à partir de 15h. Je vous en informe, chers auditeurs, que évidemment, Patrick Lagacé va accorder aux cérémonies une place toute spéciale dans son émission, donc qui va débuter après la nôtre à 15h. Donc, Philippe, tu allais ajouter, je crois.
On va peut-être vous dire aussi que tout ça aujourd'hui se déroule vraiment avec d'imposantes mesures de sécurité qui sont déjà en place ici, mais qui vont augmenter d'heure en heure. On voit déjà autour de moi les chiens renifleurs de la GRC qui sont en action. Il y a des dispositifs donc de la GRC, de la Sûreté du Québec, de la police de Montréal, évidemment, présence des premiers ministres et tout ça. On veut surtout que tout se passe bien. Donc, vraiment, là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sécurité ici au Mont-Royal actuellement.
Merci, Philippe Bonneville. À tout à l'heure. Donc, Patrick Lagacé, là, va diffuser, je le précise, les cérémonies de commémoration à partir de 17h05. Donc, dans l'émission de Patrick, à partir de 17h05, il y aura ces cérémonies de commémoration. Luc, on va s'arrêter. Au retour, on va aller rejoindre Richard Desmarais.
Lui-même.
C'est quand même une institution. Le seul et unique. Richard, c'est vrai? Alors, il était sur place, Richard Desmarais. On va aller le rejoindre. Il va nous raconter un petit peu ce que c'était que d'être journaliste et de couvrir un événement comme celui-là dans un instant.